Georges Écoude, le quadrille du lancier. À l'impression métalliquée et rêche du ciel crépusculaire surplombant la caserne du 45 de lancier, les clairons qui sonnaient au rassemblement ajoutèrent comme des gouttes de cuivre fondu. Les consignés, environ une centaine, à la fois anxieux et affriolés, avertis d'une conjoncture point banale, dégringolèrent des chambres dans la cour. Soldats médiocres ou franches souderies, il n'y en avait aucun qui ne s'estimât un troupier modèle comparé aux salauds dont ils allaient faire justice. Avant de procéder à un nettoyage exemplaire, le commandant avait attendu que le jour fût tombé et que les bons sujets fussent dehors, estimant superflu et presque malsain de les employer pour exécuteurs des plus basses œuvres. D'ailleurs, cette expérience du caractère humain que possèdent les chefs de troupe lui garantissait que le condamné ne rencontrerait pas tortionnaires plus acharnés et plus implacables que les arsouilles et les remplaçants retenus au quartier. Ils se placèrent en ordre de bataille sur deux rangs, se faisant face à 20 pas d'intervalle. Grave, tordant les crocs, de sa moustache important mais agacé, le capitaine souffla quelques mots à l'oreille d'un maréchal des logis qui, avec deux cavaliers, se rendit dans l'aile du bâtiment que couronnaient les cachots. En esprit, les hommes suivaient l'ascension du piquet vers les combles. Ils se représentaient la sommation faite là-haut au trait principal intéressé, les dispositions sommaires qu'il prendrait avant de descendre avec sa garde. Mais, comme il arrive toujours en semblables attentes de palpitants spectacles, leur imagination courait la poste. Il s'écoula des minutes durant lesquelles le commandant brossait à coups de cravache la chimérique poussière de ses bottes avant que le protagoniste du drame promis débouchât avec son escorte. Un murmure comparable au bruissement des feuilles sèches chassées par le vent de septembre courut parmi les troupiers haletants. Puis prévalut un de ces silences permettant de suspendre la distillation des pensées et le pantèlement des cœurs. Malgré sa condition fâcheuse et l'opprobre de cette confrontation, le coupable, tout jeune encore, demeurait un cavalier fort, plastique, de taille avantageuse, d'une jolie physionomie, pour ainsi dire moulée dans son uniforme paille et grenat parmi garni de jaune-orange. Il portait la grande tenue, mais sans le sabre, les éperons et le chasca. Il écarquillait les yeux comme un oiseau de nuit brusquement exposé à la lumière, et quelques brins de paille mêlés à sa chevelure noire et crépue donnait à croire qu'on l'avait surpris dormant, étendu sur sa litière. Quoique libre de ses mouvements, il s'avançait avec la lenteur et la gaucherie d'une recrue. Il semblait essoufflé, et comme il s'arrêtait pour reprendre haleine, les soldats qui le flanquaient l'entraînèrent par le bras jusqu'à 10 pas du capitaine. Désireux d'éviter ces prunelles hostiles et sarcastiques opiniâtrement braquées vers lui, le jeune homme levait les yeux et affectait de suivre le vol de quelques moineaux qui regagnaient en pépillant leur nid situé dans les toits mêmes sous lesquels on l'avait incarcéré. Lorsque, soudain, il entendit ennir là-bas, à l'autre bout de la caserne, et s'ébrouer l'instant d'après en battant des sabots, avec l'impatience d'une monture fringante trop longtemps retenue à l'écurie, un cheval, son propre cheval, le joli alezan si bien ajusté au cavalier. La noble bête appelait-elle son maître? L'idée qu'il ne la montrerait jamais lui rendit plus cruel encore le sentiment de son déshonneur, et pour la première fois depuis son arrestation, il eut peine à refouler ses larmes. Cependant, après avoir toussé, le capitaine lui envoya une pièce administrative et lut, non sans bafouiller, le procès-verbal du flagrant délit. Les yeux humides toujours tournés vers le fait, les bras ballants, le patient s'efforçait de n'écouter que le guilleri des moineaux, le hennissement de son brave cheval et aussi les premiers accords d'un bal de guinguette qui turbulait non loin du quartier. Mais il avait beau s'évertuer, les périphrases pudibondes et ronflantes du réquisitoire dominaient toutes les autres rumeurs, et les termes de sa condamnation, attentat aux mœurs, dégradation ignominieuse, mise au banc de l'armée, lui brisaient le tympan comme des percussions de cymbales ou le lui déchiraient comme des éclats de fifre. Arrivé au bout de sa lecture, « Faites votre office !» proféra d'une voix plus sourde le commandant en s'adressant au maréchal des logis. Celui-ci, après une pause crispante, se décida enfin à aborder le condamné et, à geste précipité, il lui arracha, tout d'un tir, les chevrons et les galons des manches, les torsades des épaules, les brandebourgs, les pansements et jusqu'au bouton du dolman. Afin de faciliter cette opération infamante, au préalable, un signe et ornement avait été décousu, puis rattaché légèrement à l'uniforme. Malgré cela, l'opérateur suait à grosses gouttes. Plusieurs fois, il lui fut forcé de s'y reprendre. Il voyait trouble. Sa main lâchait prise. Pressé d'en finir, il allait trop vite. Avant d'entrer au service, ce gradé avait été valet de mareilleur. Et à chaque broderie qu'il enlevait aux misérables, il se souvenait du sifflement que produisait la peau des aiguilles vives ramenées au bout de son couteau ébréché. Il n'était pas jusqu'à la pâleur livide et surtout les convulsions du dégradé au contact de son poing qui ne rappelasse à l'exécuteur les bestioles violâtres qui se tordaient écorchées et tronçonnées sur l'étal. Le sourire de bravade et de forfanterie que les lèvres de l'anathème étaient parvenues à dessiner, au commencement, dégénérait de stade en stade en un sardonisme tellement atroce que l'exécuteur se détournait pour ne plus le rencontrer. Ce rictus faussement hilar était d'ailleurs démenti par l'inépuisable détresse qui vitrait, dilatait et humectait les yeux de la victime. Pour finir, le tourmenteur emporta d'un coup sec et précis les larges bandes oranges faufilées à la culotte. Et à cette suprême avanie, lorsque le misérable ramena vers l'exécuteur ses yeux lamentables, une fièvre brûlante les avait subitement séchés. Ils n'étaient plus noyés de larmes, mais ils étaient injectés de sang. Cette fois, le maréchal des logis recula et battit en retraite, hanté pour le restant de ses jours par l'expression vengeresse de ses prunelles sanguinolentes. Le capitaine aussi s'était retiré de la scène. Pour les formalités qui restaient à accomplir, il répondait de la très bonne volonté de ses hommes. Point n'avait été besoin de les styler. Les deux rangs se rapprochèrent de façon à former un long et étroit couloir depuis l'endroit où se trouvait le condamné jusqu'à la grande porte ouverte à plein battant. Le pauvre diable pressentit qu'une autre épreuve, un surcroît de torture, lui était réservé. À quelle gymnastique vont-ils se livrer, tous ces rossards, alignés à quelques pas l'un de l'autre, pour avoir plus de jeu? La jambe droite portée en avant, on les croirait prêts à se fendre comme à la salle d'armes. Mais jamais ces faciès ne trahirent pareille préoccupation agressive. Ils prennent donc leur mission bien au sérieux. Ces lèvres pincées, ces regards épieurs, ces têtes carnassières obliquement tendues vers sa fièvre personne, on dirait autant de spadassins, ou plutôt de coupe-jarrets apostés sur la grande route. Tin-la-la, les croque-notes de la guinguette attaque la finale de l'endiablé, quadrille, dont la pastourelle vient d'accompagner la dégradation du misérable. En avant, deux, et en cadence. Non, ils sont trop de monde à lui en vouloir. Pitié, pitié, les anciens copains. Tout mais pas ça. Qu'on le ramène plutôt au cachot pour ne plus jamais l'en extraire, qu'on lui dérobe à la vue de ses semblables, qu'on lui laisse même crever de faim et de soif. Tenez, mais il y retourne de son propre mouvement. Mais les pitots qui étaient venus le dénécher tout à l'heure et qui postaient derrière lui n'ont cessé de le surveiller, répriment cette velléité d'indépendance et, rattrapant le gaillard par les épaules, le font pirouetter sur lui-même et, d'une double ruade décrochée au bas du taux, l'envoie entre les deux colonnes mal intentionnées. Dindarn avant deux. De fil en fil, les coups de pied pleuvent, drus et rythmiques, scandés par la musique forcenée, à temps et point voulu, presque avec le « une, deux » de l'école de peloton replié vers la fesse. Le bas de la jambe fait ressortir du jarret et reprojette la botte dans les reins du « pas tirard ». D'aucuns, mais combien rares, manquent la cible à dessein, et se borne à esquisser le reste. La masse truculente de ces mouflards aigris par les punitions et les corvées prend un âpre délice à ce jeu féroce. Ils frétillent et piaffent en attendant leur retour. À l'approche du souffre-douleur, ils tirent la langue, la serrent entre les dents, bandent leurs muscles, contractent tout le corps en vue d'une action unique. Ils sont littéralement hors d'eux-mêmes. Pas souvent qu'ils rateraient le Pékin, et avec la malice hypocritement salace des chenapans employés à des œuvres d'équité sociale, ils lui décochent la pénade juste entre les jumelles. Les plus agiles, après l'avoir fouillé de la jambe droite, le rattrapent de la gauche. Et tous ricanent, rigaudent, joignent l'invective aux voix de fête, applaudissent aux abous les mieux rabattus, et se répandent en interjections rauques, en hannements de goujats qui bat la semelle pour se réchauffer les arpions. Jamais les bélites n'en apportèrent tant de zèle et d'émulation à la manœuvre. Cette rigolade sera la plus carabinée de leur temps de service. Il y va jusqu'au fracas, étrangement mat et étouffé, de cette volée de coups assénés à la défilade qui les a mis en liesse. Un ancien débardeur compara ce bruit à celui d'une pile de ballots s'écoulant à fond de cale. À un bûcheron, il rappela l'aigre bise d'hiver qui secoue courageusement la forêt feuillée. Mais sa manutentionnaire trouva mieux encore par la suite. Chaque fois qu'il jouait les pieds dans le pétrin, il songeait à la pleine soutre de la pâte humaine, ce soir à jamais fameux. Inerte, privé de toute pensée, durant plusieurs secondes, l'homme ricoche et bondit. Une escaf le renverse, une autre le ramasse. S'il s'abat, c'est pour se relever aussitôt, comme une aridelle sous le fouet du charretier. Enfin, il touche à la limite de cette voie de douleur. 4 à 6 tourmenteurs encore à dépasser, il sera dehors, libre au large. Mais le large et la liberté l'épouvantent bien autrement que les épreuves qu'il a subies dans ce préau. Cette rue faubourienne, ces terrains vagues, ces enclos lépreux, piqués çà et là de quelques becs de gaz palpitants comme une chauve-souris enflammée, cette atmosphère vespérale ne lui a jamais paru aussi farcie d'embûches. Un horrible imprévu le guette. Et plutôt que de sortir avec empressement, il se bute, il se rebiffe, il ne bronche plus sous les coups. Au besoin, il repasserait entre les deux haies de tours meurtres pour réintégrer son cachet de misère rigorde. Mais, exaspéré par cette inertie, d'ailleurs pressé d'en finir, les derniers partenaires réussissent leurs efforts et, le visant à la fois, le projette sur le pont-levis au-delà de la porte. Avec un fracas sépulcral, les vantaux massifs battirent derrière lui, tandis qu'une huée prolongée le salua par-dessus les créneaux de la muraille. Il se tint blotti dans l'encoignure, sous la voûte ténébreuse, pesant contre la porte, haletant après les quatre murs, après la clémente solidité de la geôle. Au fond, il mit du temps à se rendre nettement compte de ce qui lui arrivait. Incapable de toute volition, il ne se découvrait plus que de vagues instincts. Il claquait les dents. Il était aveuglé et fourbu. Mille chandelles giraient sous ses paupières. Il ne cessait de frissonner, mais parfois des sanglots d'asphyxié, des hoquets d'épileptique le secouaient et le tordaient tout entier. Le haro de ses ennemis se répercutait encore dans ses oreilles. Il lui semblait que leurs pieds continuaient à le fouler. Sa tenue, si glorieuse, il y avait à peine 5 minutes, à présent dégarnie de ses affiquets et de ses passements, défaite comme une guenille, trouée par place, ne tenant presque plus à son corps, représentait une livrée de honte, une caricature de l'uniforme. Une de ces friperies de carnaval qui boivent la sueur et proclament la crapule de plusieurs générations de masques, un paillasson auquel s'étaient raclés avec rage les plus boueuses semelles du régiment, et dire que son équipement était moins avarié encore que l'épave humaine qui le revêtait. Impossible de tomber plus bas, d'être plus abject, plus odieux que ce rebut de l'armée. Sous l'uniforme, il ne comptait plus un seul camarade. Aucun de ceux avec lesquels il avait roulé, grenouillé de bouge en bouge, les soirs de vadrouille, avec lesquels il s'était cependant vautré dans de dégradantes promiscuités, lui pardonnerait cette turpitude suprême, à côté de laquelle les pires infamies devenaient de bonnes œuvres. Les plus mauvais drôles s'étaient cru le droit et même le devoir de le jeter à la voirie, et son châtiment ne faisait que commencer. Désormais, le meilleur samaritain se détournerait de lui. Le lépreux aurait peur de lui toucher la main. Il était irréparablement interdit hors la loi, hors la société, hors la famille. Pour lui, plus de parents, plus de sœurs, même plus de mères. À cette pensée, la première qui lui revint, il recouvra aussi l'usage de ses membres et fit un mouvement pour enjamber le garde-fou de la douve. Mais tout à coup, les dissonants accords du quadrille, raclés et soufflés pendant son supplice, secouèrent de nouveau la torpeur cotuleuse de la banlieue. Et les discordances, la couleur fauve, la frénésie, la continuelle fêlure de cette musique digne du rogome et des gueulées du voyou, ces cuivres aussi mal embouchés que des escarpes, ce cancan provocateur et cynique sur lequel on venait de lui faire danser le plus macabre des cavaliers, seul viola brusquement sa conscience et convertit son désespoir en une démesurée besoin de représailles. « Quelle bêtise j'allais commettre !» se dit-il en s'éloignant allègrement de la caserne. Une vaste blague, la vertu. Et les honnêtes gens, pourtant d'hypocrites qui ne punissent que le scandale. J'ai eu tort de me faire pincer, voilà tout. La nature se moque bien des lois humanitaires et des convenances sociales. Les gueux pour lesquels brille le beau soleil et verdoient les arbres des grands chemins sont plus nombreux que les promeneurs assis et poussifs. Et si les nuits obscures protègent les liaisons pervises, elles ne favorisent pas moins les amours frauduleuses. Il ferait beau voir les animaux domestiques réduire à l'impuissance les rapaces et les carnassiers. Imbécile, qui me croyait à l'exception, le seul dérogateur de mon espèce. Quoi, j'ai 23 ans à peine, et pour une peccadille, pour une mésaventure, me serait appliqué à moi-même à cette peine de mort que l'excellente justice de ce monde épargne souvent aux chouineurs effrénés. C'en est fait. Si l'ordre et la règle me condamnent sans rémission, je m'enrôle au service de la fantaisie et du bon plaisir. Je passe à l'armée des francs-vauriens et des insoumis. Pas de danger, ma fine. mais les coucheurs de pouillerie et les turlupins des correctionnels me vomissent, m'expurgent de leur milieu pimenté. Et voilà qu'ils ne disputent point sur les goûts ou sur les couleurs. Je suis la franc-maçonnerie, dans laquelle mon caractère et ma jeunesse me vaudront une cordiale hospitalité. Et tandis qu'ils s'étourdissaient de sophismes jetés ou phrases saccadées, encoupées de ricanements, ils se suggéraient les mystères et les rites qu'il aurait su poétiser en termes assez spéciaux. Aux confins du monde rationnel, au-delà des extrêmes tolérances, les stigmatisés, les incurables de son espèce, se réfugiaient dans des lazarets clandestins pour y trouver un soulagement au seul mal que ne pourraient adoucir nos sœurs de toutes les charités. De trop explicites gazettes lui avaient révélé les mœurs ségoriennes des colonies pénitentiaires. À côté des chambrées de mendiants et de frelampiers, celles de la caserne avec leurs farces risquées et leurs indécentes brimades étaient de virginales nuiseries. Les chauffoirs des dépôts de vagabonds perpétuaient les priapés des antiques étuves. Et comme dans des serres torrides, établies pour la culture la plus forcée, on y voyait fleurir des végétations monstrueuses, ressuscitées du paganisme ou importées de l'Orient. L'atmosphère y régnait plus suffocante que l'ozone et plus délétère que la mafette. De livides désirs crépitaient à fleur de peau comme les feux follets sur la tourbière. Ici, le feu de l'enfer prévalait contre le feu du ciel, car nulle part ailleurs les salamandres des ardeurs maudites et des lacs asphaltides ne se traînaient et se mêlaient avec autant d'effronterie. Et à présent, le dégradé aspirait à cette vie patibulaire et goûtait par anticipation la cuisante et sinistre tendresse du galérien pour son compagnon de boulet. Il était tellement obsédé par ces mirages néfastes qu'en passant devant l'entrée du bal où le quadrille ne cessait de vacarmer, il bouscula deux danseurs passablement gris qui en sortaient bras dessus. La lanterne rouge de l'enseigne leur permit de dévisager le maladroit. Ses traits décomposés, ses yeux hagards, l'expression farouche et incendiaire de sa physionomie les frappèrent aussitôt. Mais ce qui les estomaqua au point de le dégriser, ce fut l'extraordinaire état de son accoutrement. Se débrailler à lui seul constituait un attentat au décorum et à l'ordonnance. Mais où diable ce paroissien avait-il été s'arranger ainsi? Subitement, ils comprirent. Son aventure avait fait du bruit. La rencontre était vraiment piquante. Philomène, attention, on allait rire. Et l'un des deux faubouriens lui vitriola la face du même sobriquet que venait de lui hurler les échos de la caserne. Cette fois encore, la résolution l'abandonna. Il demeura lâche, baissé sous l'injure. Et avant qu'il eût repris connaissance, songé à repousser ses agresseurs, ou du moins à s'enfuir, d'autres gaillards, attirés à la porte par les exclamations et les sifflets du ralliement de leurs camarades, se massaient autour du dégradé et lui coupaient la retraite. Un mot les mit au courant. Leur mauvais gré se compliquait de cette hostilité que les gens du peuple, principalement les faubouriens et les ruraux, investisseurs de la ville, nourrissent contre tout ce qui porte l'uniforme. De guet-apens et des risques sanglantaient sans cesse les abords de la caserne. Plusieurs fois, le bouge même où les galantes barrières faisaient sauter leur dulcinée avait été démoli de fond en comble par la soldatesque en manière de représailles et par esprit de corps à la suite d'avanies infligées à l'un ou l'autre lancier. Si le cavalier qui venait de tomber dans cette bande de batailleurs avait déserté ou reçu la cartouche jaune pour un autre motif, sans doute l'aurait-il accueilli en triomphateur, mais quoique peu pointilleux sur le chapitre de la morale, cette fois, la nature de son offense les disposait plus contre lui. Ils se réjouissaient cruellement de pouvoir justifier leur prévention à l'égard de l'armée entière, à laquelle il avait appartenu l'expulsé, et à laquelle ils attribuaient les mêmes déshonneurs pratiques. Ils seraient encore moins cléments pour le coupable que ses anciens frères d'armes. Déjà, il l'entraînait à l'écart pour le mettre à de nouvelles questions, le coucher longuement sur la claie, le torturer avec ses atermoiements au moyen desquels les virtuoses de la brimade allongent la crevaison d'un chien galeux. Un des principaux marlous s'interposa. « Ne se lissons pas à nos mains, ce bougre. Accordons-lui plutôt l'occasion de se racheter. À cet effet, fondons-le dans notre basse-cour, et voyons s'il se montrera coq ou chapon. » Exultant à ce mirifique programme, la bande charria, sans plus tarder, le sujet à l'intérieur du bal. Si les femelles de ces lurons ne demandaient pas mieux que d'accorder une revanche à ce joueur par trop grec, par contre le patron de l'établissement, soucieux d'éviter de ruineuses mises en contravention, se vit un peu tirer l'oreille avant d'autoriser ce sport probablement décolleté, mais comme il dépendait exclusivement de cette clientèle excentrique, et qu'en somme, en irritant les détestables coucheurs, il courait plus de périls qu'en s'aliénant la rousse et les pandores, il finit par se rendre dans injonctions combinatoires. En conséquence, on ferma les portes, on bâcla les fenêtres pour empêcher les indiscrétions, on suspendit les danses. Quelqu'un imposait même silence aux gagistes, mais la majorité insista au contraire pour que le divertissement fût assaisonné de musique. Leur avis prévalut et les croque-notes furent invités à mener le plus dur de boucan possible afin de donner le change aux mouchards du dehors. Puis, qui sait, ce bacchanal ficherait peut-être du gingembre au front froidi. « Attention !» clama le bout en train qui venait d'émettre cette hypothèse profonde. « L'honneur est aux doyennes du sérail. Allez-y, chacune de votre boniment. Mais jusqu'à nouvel ordre, bas les pattes !» Pour tenter la conversion du renégat, on accordait à chaque prêcheuse que la durée d'une figure de quadrille. Au signal, l'orchestre entama avec rage le pantalon de la danse fatidique et on vit s'avancer sur la piste une chiffonnière édentée, une pierreuse qui tenta de circonvenir le patient avec des grimaces de guenon amoureuse et lui débita des ordures cabarbes. La galerie souligna ce lugubre lazzie par des boutades et des huées. Après cette maugrabine aux premières mesures de l'été, s'amena une colporteuse presque aussi mûre qui entretint l'indulgente hilarité de comparse mais n'obtint aucun autre succès. Pour la poule, cette vétérane du trottoir céda le terrain à une harangère un peu moins marquée, plus propre aussi. Donc, au milieu de fort profondes ténèbres, un permissionnaire ivre se fut peut-être rassasié, quitte à les triper ensuite. Celle-ci fit place à une commère rondelette, vraiment à corte, un morceau friand sur lequel il ne fallait pas cracher. Toutefois, le mijauré ne répondit pas plus à ses avances qu'à celles des trois précédentes gorgones. Les assistants, en commençant à le trouver difficile, se remirent à l'interpeller sans expurger leur vocabulaire. Il ne se laissa pas démonter par leurs reproches et opposa la même froideur, le même dédain aux paroissiennes qui défilèrent après cette favorite de la corporation. Brunes ou blondes, amazones, imposantes ou gamines délurées, sirènes serpentines ou boulottes douillettes, vampires décharnés ou goules ventrues, aucune ne parvint à lui tisonner le tempérament. La toute dernière, celle que les juges du tournoi tenaient en réserve, un trottin de modiste, une Rousseau d'encore mineur, l'air d'un collégien précoce, sans poitrine et sans hanches, n'obtint pas plus de résultats que la Kyrielle qui l'avait précédée. Quand cette maigrichonne se retira en s'avouant vaincue, ce fut un tollé, un ourvari, une explosion de sarcasme et d'invective. « Eh bien, s'il en est ainsi !» hurla le chef de la bande à toutes ces femmes horriblement mortifiées. « Il y passera de force. À la curée, les matines !»« À la bonne heure, » se dit le dégradé. « Mieux vaut subir leur violence que leur fadaise. » Et comme toutes vieilles et jeunes se ruaient à la fois dans l'arène, il leur décocha un regard tellement frigide, tellement rébarbatif, qu'elles tombèrent en arrêt, matées par sa superbe, confondues par l'énormité de son aversion. Mais il se ravisa subitement, sous l'afflux d'une inspiration satanique. Le moment était venu de s'amuser à cette expérience, tout autant, même mieux, que les facétieux récidivistes. Bientôt, avec l'aide du mauvais génie, le lancier déchu serait peut-être le seul à se divertir. Oui, rirait bien qui rirait le dernier. Les candides repris de justice se doutaient guère de ce qui les attendait, du tour abominable que ce cachotier était résolu à leur jouer. On le vit se départir de son attitude répulsive, de sa contenance hargneuse. Allait-il s'humaniser à la fin? Ses traits se détendirent, il se rengorgea, se campa avantageusement et, les bras croisés sur la poitrine, laissa errer sur son houleux entourage des regards ressemblant à des œillades. Mais où voulait-il en venir? Il songeait tout simplement à prolonger l'épreuve, à gagner du temps en leurrant ses bagasses, en les promenant par des alternatives de confiance et de décision, jusqu'à la minute fatidique où sa conspiration éclaterait à tous les yeux. Rien n'avertit les matériels philistins, le roué de Lila, de la catastrophe que leur préparait ce méchant Samson, pas même le sourire faux des sibyllins effleurant furtivement ses lèvres. Oui, il joua tellement bien la comédie que les femelles s'y laissèrent prendre et rentrèrent spontanément et momentanément leurs griffes malgré les objurgations des mâles avides de carnage et pressés d'en finir. Voilà qu'elles se reprirent à le supplier en chœur, à lui chuchoter de tendres et humbles déclarations. Leurs paroles impatientes, leurs grogues reproches expiraient en soupirs langoureux. C'est tout au plus si elles s'enhardirent jusqu'à l'embrasser, à l'étreindre dans leurs bras, à le presser contre leur gorge palpitante. À la longue, comme il demeurait calme, souriant, énigmatique, sans se prononcer encore en cette circonstance, crispante posture d'un belâtre que sa fatuité empêche de désigner son élu, les mieux tournés abandonnèrent jupe et corsage, accoururent à des attitudes savantes, à des pratiques jusqu'à présent souveraines et irrésistibles. Lui continuait de les berner en secret. Alors, toujours sans le brutaliser, elles achevèrent la besogne de ceux qui l'avaient dégradé et le débarrassèrent pièce par pièce de son uniforme dépareillé. Loin de leur opposer la moindre résistance, il semblait encourager ses privautés, si bien qu'elles finirent par le réduire au costume sommaire du conscrit examiné par le conseil de révision. À l'époque où il passa cette visite, véritable parangon de la beauté mâle et adolescente, ses formes nerveuses et musclées avaient arraché des jurons approbateurs aux grognards chargés de jauger et de trier la viande à canon. Mais aujourd'hui, une influence mystérieuse, un pouvoir occulte étrangement suggestif, était intervenu pour enchérir encore sur ses perfections naturelles, pour le transfigurer, le parer d'une splendeur surhumaine, assis aussi devant ce nu impeccable, les femmes demeurèrent-elles quelques moments éblouies, tenues en suspens, ne sachant plus quelle partie prendre, muettes, retenant même leur haleine, sentant leurs jambes se dérober sous elles, sur le point de tomber à genoux. Puis, le désir l'emportant sur la dévotion, leur nostalgie charnelle s'invétérant jusqu'au paroxysme, elles fondirent sur lui, toutes le voulant à la fois, toutes résolues à s'en emparer, coûte que coûte, à en prendre leur part, dussent-elles pour cela le lacérer et se disputer les lambeaux de sa personne, comme elles venaient de se partager les bribes de son reste de tenue. Les hommes de l'assemblée, presque tous jeunes et athlétiques gaillards de plein air, braconniers, valets d'abattoir, tapes dures, rôdeurs de barrières, s'étaient égosillés à flatter, à stimuler leurs compagnes. Fiévreux, trépignant d'impatience, avec des rires, des grognements, des exclamations, des battements de pieds, des claquements de langue, des jurons, des tortillements et des dislocations de mancheurs, ils semblaient des villageois intéressés dans un combat de coq, avec cette différence qu'ici chacun pariait pour sa poule contre ce coq récalcitrant. Peu jaloux, même partageux par industrie, ces galants ne demandaient pas mieux que de céder, en passant, les faveurs de leur gourgandine à ce joli bonnet. Celle qui triompherait de sa froideur n'acquérait que plus de prestige. À la longue, cependant, les marauds s'échauffaient à la place de cet homme de bois. Ils refoulaient à grand-peine leur envie de s'élancer sur les tentatrices et de les venger de sa fragilité par un tribut surabondant. Et en même temps qu'ils se trémoussaient d'ardeur et râlaient de convoitise, il se trouvait plus d'imprécations assez énormes pour en abonir le piteux damoiseau. L'épreuve se prolongea. D'insinuantes et de câlines qu'elles étaient montrées jusqu'à présent, les femelles se firent agressives et malignes. Une rancœur, une âcreté acheva d'encanailler leurs grâces banales et leurs appâts publics. Le dépit les enlaidissait à tel point que l'attention angoissée et tendue, la solidarité fougueuse et vengeresse de la cavalerie se relâchèrent. Graduellement, les drôles en vinrent à partager la répugnance que ces maritornes grimaçantes et gorgiases, l'écume aux lèvres, rauques de lubricité, inspiraient à cet Adonis. Oui, peu à peu, et en leur fort intérieur, ils désavouaient leurs violentes complices. Comment n'arrivèrent-ils à se rappeler avec un regret attendri, avec presque l'envie de revivre et de rattraper les occasions négligées, tant de polissonneries commises en manière de récréation à l'époque de leurs baignades d'apprentis lâchées par les fabriques. Leurs flopées gagnaient à pas accélérés les rives du canal de battelage. Par les crépuscules caniculaires, leurs plongeons troublaient les eaux stagnantes et ravageaient les îlots d'algues et de fétides nénuphars. Puis, mettant de spéculatives lenteurs à se rhabiller, prenant plaisir à se voir au naturel, leurs ébats licencieux, leurs jeux outrés sur les berges poudreuses, scandalisaient la digestion de pudiques merciers, gravés de fritures et de matelots. La nudité de ces vauriens, leur carnation spéciale, persistait à trahir les efforts et les attitudes du métier, le jeu de l'outil, l'éthique et les manœuvres professionnelles. Leurs membres s'étaient façonnés à la gymnastique artisane. Leur chair, imprégnée de poussière et des succès du labeur, gardait le flouement, la cassure, les bourrelets, le ragoût topique, quelque chose de l'usure, du foulage, et de la patine des haillons dépouillés. Ce déshabillage vicieux se tonalisait avec la région usinière. Il marque l'heure ambiguë de cette pleine eau clandestine, abrégée et dramatisée par l'apparition des bonnets à poils. Garçon de peine et goujat, correspondait physiquement aux torpides effleurances du serin. Il s'assimilait le charme paludéen, la douloureuse et toujours convalescente beauté de cette nature suburbaine, leurs dégaines efflanquées et blafardes, leurs muscles émaciés par places, remplis et presque trop fournis en d'autres, leurs bras maigres, leurs vertèbres saillantes, leurs mollets variqueux, leur suggéraient mutuellement de morbides comparaisons, les induisaient en de scabreuses escuègleries. De furieux corps à corps aboutissaient à des rapprochements douillets et frileux, à des tendresses détournées. Et comment en arrivèrent-ils tous, ces garnements, rogues et forcément émoussés, à se remémorer à présent les tièdes voluptés et les insidieuses caresses de l'adolescence? Comment leurs narines peu subtiles retrouvèrent-elles l'odeur spéciale de ces soirs glauques où la campagne fausse s'électrise comme une chambrée de fiévreux? Mais qui expliquera jamais le dynamisme de nos êtres et la complaisance du fer que la rouille dévore et la limaille s'accrochant à l'aimant? Au surplus, depuis longtemps appâté de force musculaire, friand d'exploits intrépides, de rixes bien rouges et de défis téméraires, capable d'envier à un rival ses prouesses de fracasse et de pugilaciste plutôt que ses équipées galantes, capables aussi de sacrifier une maîtresse, un féal compagnon, à mesure que leur attention se détachait des sirènes échevelées et glapissantes, ils se prirent à admirer le courage et l'impassibilité du patient, et à mesure aussi que s'invétérait leur répulsion pour leurs amantes de tout à l'heure, ils se sentirent non seulement indisposés, de moins en moins, contre cet original, mais trouvèrent son tempérament fort plausible, se prirent même à son égard d'un commencement de compassion, lequel ne tarda pas à dégénérer en une affective indulgence. Ce mystérieux retour d'affinité s'accusa de minute en minute. Jamais ces forcenés n'avaient rencontré ce genre de force, cette bravoure-là, ce mépris des pires ignominies, cette assurance, cette radieuse crânerie, ce désinvolture de jeune dieu, supérieur à toutes les lois et à tous les pactes du commun des créatures. Et le calme céleste qu'il puisait dans son abjection, sa nonchalance féline, son impavide jeunesse, surtout l'ostensible et blasphématoire dégoût de la femme dans ce corps viril d'une cambrure épique, d'un moule ineffable, servi par des attitudes sculpturales, flattait à la fin un penchant qu'il n'avait jamais découvert sous leur rugueuse carcasse et démêlé dans la houle et l'effervescence de leur postulation. C'était plus qu'un peintre, qu'en peintre et en statuaire vibrant, même plus qu'en acrobate et en lutteur de carrefour, qu'ils appréciaient la supérieure plastique de ce mécréant. Non seulement ils l'avaient absous, mais ils l'aimaient d'une ambiguë tendresse. Ils étaient prêts à embrasser sa cause. Ils s'abstinrent de joindre plus longtemps leurs invectives et leurs reproches orduriers aux gravelures dont le criblaient les bourrelles. Leurs pieds cessèrent de battre la mesure du chahut incendiaire et leurs poings de se crisper au fond de leurs poches ou de se tordre, brandis vers lui comme des casse-têtes. L'angoisse serra leur gorge. Son fluide leur empoisonna les moelles. Leurs entrailles souffrirent pour lui. Leur chair pâtit dans sa chair. Leurs corps s'incorporèrent au sien. Détourné chez ces copieux sacripants, le torrent des instincts sexuels, déplacer le siège de leurs affections, fomenter l'érotisme le plus subversif, c'était donc là ce qu'avait tramé l'infâme. Le maléfice opérait au-delà de ses plus vindicatives espérances. Il s'était produit, en ces natures plantureuses et massives, un de ces répréhensibles et véhéments transports qui fanatisaient les païens à la vue des tortures superbement endurées par les martyrs, et qui dicte aujourd'hui l'impérieuse vocation d'assassin au Gavroche grelottant d'un spasme sanguinaire dans les livides zoomades de la guillotine. Le perturbateur avait suggestionné de tout son fluide ces faubouriens intraitables et bourrus, ces luxuriants sauvageons. Et à présent, en retour, ils sentaient les ondes de leur monstrueuse sympathie envahir l'espace et l'envelopper lui-même des pires baisers et des plus secrètes caresses. Une expression de jouissance sublimée s'épandait sur son visage. On aurait cru assister à l'apothéose d'un confesseur de la foi ravi dans l'invisible cœur des anges. Sa capiteuse agonie troublerait à jamais les sources amatives de ceux qui en avaient été les témoins, et ces barbares qui venaient de le livrer aux représailles de leurs femelles devenaient ses premiers néophytes, ses disciples passionnés et vengeurs. La rage, la haine, la soif de revanche qui avait succédé tout à l'heure en lui à ses remords et à son désespoir faisait place à son tour à une sensation de béatitude infinie, d'éperdue félicité, de triomphe suprême. Il était fier de lui-même, réconcilié avec sa faute auprès d'en tirer gloire. Sa conscience légitimait et exaltait ses erreurs. Les buveurs oubliaient de pinter, les pipes s'éteignaient l'une après l'autre, les voix rudes des mâles se taisaient. Envahis par l'angoisse ambiante, les musiciens renonçaient à torturer leurs cuivres bossués et leurs boyaux de chat, et dans la salle on n'entendait plus à présent que les sinistres glapissements des louves aboyant à la lune par une nuit de gel, ou de faux ricanements d'hyènes tenus en respect par une combinatoire effigie tombale. Quelque temps, trop préoccupés de leurs victimes, elles ne remarquaient pas le silence réprobateur dans lequel se renfermait la chambrée, si tapageuse et si rutilante du commencement de la partie. Mais la possession magnétique s'établissant de plus en plus étroitement entre les regardants et la victime, le fluide qu'ils échangeaient devenait de plus en plus intense. Ce calme et cette immobilité autour d'elles leur causèrent une vague inquiétude. Puis elles furent intriguées par l'air extatique de leur proie les narguait. Puis elles découvrirent leur crise inouïe qui s'était produite dans les sens de leur souteneur. Damnation ! Non content de se dérober à leurs avances et à leurs pratiques, l'aberré passionnel leur volait, leur crachait et leur arrachait les tendresses de ces bons mâles. S'ils défaillaient, s'ils se pâmaient ainsi, c'était enivré par le bouquet de leur abominable tendresse. Désormais, elles, les coucheuses et les nourricières fidèles, n'existeraient plus pour ces ruffians débridés. Se pouvait-il ? Pas moyen d'en douter. Alors, avant de se retourner contre les lâcheurs, elles voulurent en finir avec l'androgyne qui les avait débauchés. Avec une recrudescence de rage, elles se mirent à le griffer, à le mordre, à lui tirer les cheveux. Quelques-unes le percèrent de leurs épingles, de leurs broches, le déchiquetèrent à coups de ciseaux. Les hideuses vieilles proposaient de le mutiler, mais les jeunes les en empêchèrent, désespérant pas encore de leur prestige. En attendant, elles le faisaient mourir à petits coups. À défaut de sève, elles se gorgeraient de sang. Lui, cependant, continuait de rire au démon. Son exaltation le rendait disvulnérable, ou plutôt, à mesure qu'elle le criblait de blessures, il lui semblait que ses idolâtres y promenaient des lèvres balsamiques. et on aurait su s'il se débattait dans les affres du trépas ou dans un spasme de félicité divine. Ses complices demeuraient stupéfaits, cloués sur place, partagés entre l'envie de le délivrer et la jouissance de cette sublime agonie. Ainsi les prêtres sacrifient dans la messe le Rédempteur qu'ils adorent. L'ayant vu chanceler, car lui avait ouvert les veines et il perdait le sang en abondance, ils firent un mouvement pour se porter à son secours. Il eût été aussi difficile de parvenir jusqu'à lui que de retirer un fétu de paille du milieu d'un feu de prairie. N'importe, ils l'arracheraient, mort ou vif, de leur serre, et ils immoleraient toutes ces harpies sur le corps du seul bien-aimé. Devinant leur impulsion, il eut encore la force de leur faire signe de s'arrêter. Pourquoi subsister plus longtemps? N'avait-il pas épuisé en ces quelques minutes la somme de joie terrestre, vidé jusqu'au tréfonds la coupe des voluptés majeures? Il est en divers eux des mains conjuratrices, pleines d'onction et de charité. Avant de les fermer pour toujours, par-dessus l'enchevêtrement et les replis des ménades, il laissa reposer ses yeux d'ombre et de vertige sur le cercle de ses possédés. Oh, ce qu'il y avait de délicieusement félon, d'ineffablement sacrilège, d'amoureusement sinistre dans ses mémorables yeux d'archange déchu. Alors, aspirant, inhalant, dans un dernier effort de ses poumons, toute la dévotion qui émanait de ses ensorcelés, pour s'en griser comme d'un vin eucharistique, pour s'en noindre comme d'un crème suprême entre tous, n'espérant nul viatique plus digne de son paganisme, lui-même sentit s'épancher, avec la vie, tout ce qu'il couvait de désir et de nostalgie, tout ce qu'il distillait de rêve, et l'essentiel de son être aller vers eux et se consumer dans les flammes de leur perdition.